Vous êtes tous assez bien installés pour un petit moment. S'il y a des eaux qui gémissent, l'esclavage dans la sombre nuit, alors je vous dis, amis, reprenez courage. Bientôt l'aube lira. Bien, c'est le Seigneur qui nous réunit après ces différents travaux. Et nous voulons passer un moment avec lui. Et je pense toujours à Moïse, qui est un véritable ami, un frère, un conducteur aussi pour nous. Quand il redescendait de la montagne, parce qu'il avait été dans la présence de Dieu, il avait vu son visage rayonner. Et pourtant, il avait passé 40 jours. Et 40 nuits avec lui. Et la peau de son visage rayonnait, mais lui ne savait pas. Lui ne savait pas. Et j'ai pensé souvent que le meilleur moyen d'être dépréoccupé de nous-mêmes et même de nous fatiguer, c'est d'être occupé. Quand nous sommes occupés du Seigneur, nous oublions notre fatigue. Et nous sommes dépréoccupés et de nous-mêmes. La peau de son visage rayonnait. Le monde le voyait, les Israélites le voyaient, mais lui ne le savait pas. Et même, il n'a pas voulu le montrer. Quand il a vu que ça gênait d'autres personnes, il voilait son visage. Mais quand il parlait avec le Seigneur, il s'oubliait complètement lui-même. Eh bien, nous voulons lui demander que, dans cette soirée, nous puissions faire cette expérience de l'oubli total de nous-mêmes. Dieu notre Père, nous sommes dans à la présence de ton bien-aimé Fils. Et nous te louons et nous te bénissons parce que tu as voulu nous apprendre à le connaître. À le connaître d'une manière intime, personnelle. Non pas seulement comme le Créateur par lequel tu as accompli toutes choses dans cette merveilleuse nature dont nous bénéficions, mais tu as voulu nous le faire connaître dans ce don de lui-même qui n'était autre que toi-même, te donnant en Jésus pour nous montrer jusqu'où allait ton amour. Non seulement tu nous avais donné l'existence, mais tu te donnais à nous pour que notre existence ne soit pas, ne reste pas ce qu'elle était devenue par le péché, mais qu'elle devienne une vie vraiment nouvelle, une vie régénérée et éternelle. Nous te louons et nous te bénissons et nous te demandons que cette parole aussi dont tu nous as fait don, tu l'ouvres toi-même au milieu de nous, et que nous puissions ensemble y goûter quelque chose de merveilleux, de délicieux pour nos âmes, pour la gloire de ton nom. En Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, plusieurs parmi vous n'étaient pas là hier soir quand nous avons fait notre petite introduction générale. Et je disais ceci, que depuis tant d'années, ce que nous appelons la fête de la reine, ou si d'autres aiment mieux, la fête de dollars, eh bien, ça ne tombait pas sur Pentecôte. Or, quand on a arrêté que ce serait ce week-end, on a pensé à la fête de la reine, mais je n'avais pas réalisé que ça tombait sur Pentecôte. Et je disais hier soir que en Europe, Pentecôte est célébrée peut-être beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus marquée que ce que je constate au Canada. Nous avons toujours des grandes manifestations spirituelles, des grandes rencontres du matin jusqu'au soir où nous étudions ensemble la parole
de Dieu, nous avons même aussi des camps, déjà, à Pentecôte. Eh bien, le Seigneur nous a réunis ici pour un camp de travail, afin de préparer ces camps d'été dont non seulement les groupes que nous connaissons bénéficieront, mais d'autres groupes que vous ne connaissez pas, parce que vous ne travaillez pas seulement pour un groupe particulier, mais pour un ensemble de communautés chrétiennes qui ont trouvé en ce lieu un site favorable pour y amener leurs enfants ou leurs familles ou des jeunes gens qui désirent s'inscrire dans la parole tout en jouissant de cette merveilleuse nature. Vous le savez parce que vous avez vu ces pamphlets. Il y a un camp familial Mahanaïm cette année qui prend simplement le relais, comme nous le disions hier, des camps Lamater, qui voulait dire Laval, Mascouche et Terrebonne, puisque ce sont ces assemblées-là qui se réunissent à Terrebonne et qui avaient cette responsabilité du camp familial qui était toujours suivi depuis que nous sommes venus pour la première fois dans ce camp en 1969. Il y a donc une vingtaine d'années que nous sommes venus visiter ce lieu, et c'est en 70 que nous avons commencé ces camps. Donc, nous le rappelions, ça fait le 20e camp cette année Mahanaïm, parce que nous y ajoutons les deux camps que nous avons pu faire en Israël. Et même Jean-Baptiste qui a fait le tableau Mahanaïm se souvient que la flèche, on pouvait la mettre d'un autre côté, parce que on s'est dit, on fera un camp ici, à Kiderloch, mais on ne va pas prendre racine à Kiderloch, hein. On ira peut-être ailleurs, alors on mettra la flèche d'un autre côté. Et puis la flèche est toujours du même côté, depuis le commencement, depuis 1970. Mais c'est aussi grâce à ces camps de travail, parce que je me souviens, quand nous avons commencé ces camps, c'était aussi un temps assez héroïque. Dans la cabine du chef où nous avions mis mon ami le pasteur Champandagne, qui avait 70 ans, l'eau coulait et on trouvait presque une piscine à côté de son lit. Et il fallait faire toute espèce de réparation urgente. Enfin, on allait toujours au plus pressé. Et maintenant, par la grâce de Dieu, grâce à ses équipes et sous la haute direction de Josaphat et d'autres, et je dois vous dire, il y a 50 ans, plus de 50 ans que je fais des camps, moi, j'ai jamais vu une équipe pareille au travail. Ça, c'est pas pour vous flatter, parce que je sais que le Seigneur me reprendrait. L'Écriture nous dit, ma langue ne s'est pas flattée, hein, mais j'ai quand même des yeux et j'ai aussi un cœur. Et en vous regardant travailler chacun dans son équipe, j'ai été profondément édifié, parce que je suis toujours à l'école et je sais voir les choses. Et si j'admire la nature, si je m'arrête encore au chant des oiseaux, je vois aussi le travail des hommes. Vous ne vous connaissez pas tous, mais vous avez travaillé avec cœur. Vous êtes venus non pas pour vous distraire, vous n'êtes pas venus pour faire du tourisme ou voir simplement un lieu qui est agréable, qui est très beau, puisqu'on dit que c'est un des plus beaux lieux du Québec, hein. Le lac Memphremagog, il faut bien le croire, puisque Denis Arcand a choisi ce lieu pour y faire son film. Je ne parle pas de la valeur de ce film, n'est-ce pas? Mais vous savez que c'est les vues de que nous voyons, qui passe dans ce film, et en particulier Saint-Benoît-du-Lac, qui est en face de nous. Alors, hier, nous vous avons parlé un peu de Pentecôte, puisque nous sommes dans ces jours qui précèdent Pentecôte. Demain matin, ce sera le jour de Pentecôte, une des grandes fêtes chez les Israélites d'abord. Et nous rappelions que la Pentecôte est devenue chez les Juifs la fête de la moisson, la fête des moissons. Pentecôte était la fête qui rappelait le don de quoi en Israël? Le don de la loi. C'est la fête qui était instituée pour rappeler qu'après la sortie d'Égypte, le passage de la mer Rouge, les Israélites se sont trouvés au pied du Sinaï et que là, ils ont demandé à Moïse que Dieu leur donne une loi pour savoir comment se conduire. Et Dieu, dans sa miséricorde, a répondu à leur désir et leur a donné cette loi en parlant à haute voix. Vous avez vos Bibles peut-être, mais je ne vais pas vous faire tourner toutes les pages de votre Bible. Le Seigneur, lui, il avait sa Bible dans son cœur. La loi était écrite au-dedans de ses entrailles. Il ne se promenait pas avec un rouleau de l'écriture pour parler, mais il disait cette parole qui était en lui et qui l'habitait et qui le remplissait. Mais quand même, pour que vous puissiez contrôler, parce que je ne suis pas le Seigneur, pour que vous puissiez contrôler ce que nous vous disons, eh bien, selon la loi, vous le trouvez dans le chapitre 20 de l'Exode, mais aussi répété dans le chapitre 5 du Deutéronome. Au début des 40 ans et après 40 ans de vie à travers le désert, Moïse, qui ne va pas entrer dans le pays de Canaan, trouve bon de rafraîchir la mémoire des Israélites en leur racontant comment la loi leur avait été donnée. Et chez les Juifs, la Pentecôte, qui se célèbre 50 jours après la grande fête de Pâques, qui elle rappelle la délivrance du pays d'Égypte, Pentecôte rappelle aux Juifs non pas simplement la délivrance du pays d'Égypte, c'est la base qui leur rappelle cela, mais le don de la loi. Comment, après avoir été délivrés, maintes fois, ils ont reçu le don de la loi écrite du doigt de Dieu sur des tables de pierre. Vous voyez que le Seigneur est un ouvrier, hein? Il sait écrire et il a gravé sur des tables de pierre pour que ça ne s'efface pas sa loi. Mais avant de la graver, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a prononcé. Et chose inouïe, dans ces jours, au pied de la montagne qui était complètement embrasée alors qu'on entendait des coups de tonnerre, un son de trompette et que le peuple entier était au pied de cette montagne, du mont Horeb, qu'on a appelé la montagne de Dieu parce que Dieu s'y était manifesté d'une façon, pour ainsi dire, visible, et tout à coup, un peuple qui avait été esclave en Égypte a entendu quoi? C'est ça qu'il a entendu? Il a entendu la voix de Dieu. En Égypte, bien sûr, on adorait les veaux, on adorait les animaux, n'est-ce pas? Alors on pouvait entendre des beuglements. Et ils avaient tellement entendu pendant toutes ces années de captivité des beuglements, et ils avaient tellement entendu le fouet de ceux qui dirigeaient leurs travaux pénibles, que, à un moment donné, après avoir entendu la voix de Dieu, ils ont oublié en 40 jours la voix de Dieu, et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un veau qui mange de l'herbe. Et ils ont dit, demain, une fête à l'Éternel. C'est quelque chose d'inouï. Ils ont proclamé que ce jour-là, le lendemain, puisque Moïse semblait ne pas revenir, on ne savait pas ce qu'il était devenu, alors qu'il parlait avec Dieu, et qu'il recevait des mains de Dieu ses tables, et qu'il allait redescendre avec Josué, eh bien, quand Moïse descend de la montagne, il entend un bruit extraordinaire, et Josué, son jeune aide, lui dit, mais on dirait qu'il y a un bruit de guerre, et Moïse, qui a l'oreille fine, il dit, ce ne sont pas des bruits de guerre, ce sont des danses et des chants et des danses. Et quand ils arrivent, ils voient le peuple prosterné devant le veau d'or qu'avait construit qui ? Son propre frère Aaron. Un sacrificateur de l'Éternel, qui connaissait la présence de l'Éternel. Et ce monde avait entendu la voix de Dieu. Et il avait complètement oublié en 40 jours. Vous direz, ben nous, si ça nous était arrivé, nous nous en serions souvenus, si on avait eu le privilège d'entendre la voix de Dieu. Voyez-vous que nous sommes bien différent. Maintenant, je vous lis comment Moïse rappelle cela. Si vous voulez, le début du chapitre 20 de l'Exode, mais maintenant, nous allons lire le chapitre 5 du Deutéronome. Moïse, donc, est à la fin de son ministère, il a 120 ans, mais il a toujours la même vision, sa vie n'a pas baissé. Malgré les fatigues du désert et ses longues marches, il est capable de s'adresser à tout le peuple. Et il leur dit, écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui. Parce que vous voyez, pour Moïse, c'était toujours aujourd'hui. Chaque fois qu'il parlait, eh bien, ce qu'il disait était valable pour le jour même. Apprenez-les. Donc ces lois que vous trouvez déjà dans le chapitre 20 de l'Exode, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui, tous vivants. L'Éternel vous parla face à face, sur la montagne, du milieu du feu. Je me tins alors entre l'Éternel et vous pour vous annoncer la parole de l'Éternel, car vous aviez peur du feu, et vous ne montâtes point sur la montagne. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et puis vous avez les 10 commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux ou qui sont en bas sur la terre ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Regardez, 3 ou 4 générations que Dieu visite à cause de leurs iniquités, mais sa miséricorde s'étend sur 1000 générations. Sur ceux qui m'aiment, vous voyez que ça vaut la peine de l'aimer. Si vous aimez le Seigneur, frères et sœurs, eh bien, c'est sur 1000 générations que la bénédiction peut se reporter. C'est quelque chose. Mais si nous transgressons sa parole, si nous nous endurcissons, eh bien, c'est peut-être la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Nous ne serons peut-être plus là. mais nous aurons des arrière-petits-enfants et qui maudiront notre mémoire. Parce qu'ils apprendront que s'ils ont certaines tares ou certaines souffrances, c'est parce que leur arrière-arrière-grand-père n'a pas marché dans la fidélité à son Dieu. C'est quelque chose. Vous n'avez pas le droit de vous faire du mal à vous-même. Parce que vous faites du mal à vous-même, c'est quelque chose qui peut être transmis dans les générations futures. C'est un avertissement. Et moi, je suis un homme qui croit aux promesses de Dieu et qui est sûr de ses promesses. Mais je crois aussi à ses menaces. Nous devons prendre Dieu au sérieux et ne pas nous y tromper. Or, nous sommes aujourd'hui dans un monde où l'on se moque de Dieu. Éperdument, on se moque de Dieu. Comme nous le disons souvent, on ne sait plus distinguer entre le noir et le blanc, alors tout le monde voit gris. Et on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal, on ne sait plus ce qu'on ose faire, ce qu'on n'ose pas faire, comme si on était encore sous une loi, alors que nous devrions être remplis d'amour pour accomplir les désirs du Seigneur, qui ne sont pas pénibles. Verset 11. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra mon nom en vain. Et vous savez, aujourd'hui, on met le nom de Dieu à toutes les sauces. On met le nom de Dieu à toutes les sauces. Les gens jurent, les gens sacrent, et c'est comme s'il y avait une ignorance totale de ce commandement. Et je crois que c'est très sérieux. Et même chercher ici au Québec à vous débarrasser de mon doute. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, mon doute? C'est mon Dieu. Alors, ne trompons pas le Seigneur. Je sais que c'est des coutumes, c'est des habitudes, mais laissez-le tranquille dans ce sens-là. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e et le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Vous voyez l'amour de Dieu, c'est pas seulement pour les patrons, mais c'est pour les ouvriers, c'est pour les employés. Et non seulement pour les employés, mais même pour les animaux. Tu te souviendras que tu as été esclave, verset 15, en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Honore ton père et ta mère. Et je souligne ici qu'il n'est pas dit quel père et quelle mère, mais ton père et ta mère, quel que soit ses défauts ou ses qualités. C'est de les honorer. C'est le premier commandement avec une promesse. Il est dit, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a toujours une bénédiction pour ceux qui ont honoré leur père et leur mère. Même si votre père et votre mère n'avaient pas les lumières, ou n'ont pas encore les lumières que vous, vous croyez avoir, honorez vos parents. Là, vous ne vous trompez pas. Honorez vos parents. Et si vous savez les honorer en leur demandant peut-être pardon pour ce que vous avez pu faire quand vous étiez plus jeune, même avant votre conversion, ils ont peut-être versé des larmes à cause de vous, parce que dans la piété qu'ils avaient, ils avaient une certaine crainte de Dieu, ils ont essayé de vous la communiquer, et puis vous ne les avez pas écoutés. Puis maintenant, tout d'un coup, vous vous convertissez, vous avez la lumière, puis vous allez laver la tête du père ou de la mère, parce que vous avez compris, vous, le plan du salut ou l'évangile. Mais attention,
attention, quand vraiment l'œuvre de Dieu se fait dans nos cœurs, il met des sentiments d'humilité et il nous donne une vraie repentance. Et peut-être c'est par la repentance à nos parents que nous montrons le mieux notre repentance envers Dieu. En nous humiliant devant nos parents, même des parents qui n'ont pas nos lumières, même des parents qui nous critiqueront, qui nous jugeront parce que nous allons dans une autre communauté. Il faut savoir supporter cela et pas vouloir les changer nous-mêmes. Vous ne pouvez pas les changer. Personne ne peut changer quelqu'un. C'est que le Seigneur, l'Esprit de Dieu, qui peut faire cette œuvre. Et alors après viennent les commandements, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Alors, j'en fais aucune chose qui appartienne à votre prochain. Vous pouvez mettre toutes les choses modernes qui nous viennent à la pensée et qu'on envie chez le voisin, chez le prochain. On n'a pas le même ordinateur, on n'a pas la même machine à laver, on n'a pas la même bagnole. Et puis on envie, bien non, 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 il a dit, tu n'envieras pas ces choses-là. On n'a pas une si belle maison, non, tu n'envieras pas ces choses. Ça veut dire que tu seras heureux de ce que tu as. Et c'est cela, l'attitude que le Seigneur voulait. Et enfin, il est dit ceci, après ces 10 commandements, verset 22, telles sont les paroles que prononça l'Éternel, vous voyez, à haute voix, sur la montagne, au milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter, c'était complet. Et il les écrivit sur deux tables de pierre, qu'il me donna. Mais vous savez ce que Moïse en a fait de ces tables. Quand il est descendu de la montagne, mais je lis encore la 23, lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne, c'était donc 40 jours avant, était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent de moi et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix au milieu du feu aujourd'hui. Nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Voilà la première chose que Dieu a fait. Il a parlé à des hommes qui sont demeurés vivants. Et ils en ont fait l'expérience. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Ils ont peur de continuer d'entendre cette voix. Et aujourd'hui, vous entendez sans cesse les incrédules qui disent, si Dieu existe, qu'il parle. Hein. On nous dit que nous sommes dans le temps du silence de Dieu. Oui, c'est le silence. Eh bien, c'est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce qu'il garde le silence. Il y a un tas d'iniquités qui se produisent et il garde le silence. Mais c'est parce que les hommes ont demandé qu'il se taise, qu'on ne l'entende plus directement. Alors vous l'entendez par des hommes que Dieu qualifie, que Dieu choisit, que Dieu appelle et qui vous transmettent des messages. Vous voudriez entendre directement la voix de Dieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas l'entendre directement, mais ce sont les hommes qui n'ont plus voulu entendre directement la voix de Dieu, car ils avaient peur de mourir. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix de Dieu, du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, et tu rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu, nous l'écouterons et nous le
savons, pour l'accident. Et 40 jours après cela, après ces déclarations que Moïse leur a faites, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un peuple prosterné devant le veau d'or et intitulé Grande Fête à qui? À l'Éternel. Est-ce que ça ne vous dit rien? Mais ça me bouleverse encore. Et aujourd'hui, nous entrons dans une période dans ce que j'appelle la post-chrétienté, parce que la chrétienté, ben, c'est déjà derrière. Mais nous arrivons en post-chrétienté. Et partout, même dans le milieu évangélique, c'est plus que des festivals. On n'entend plus que cela. Festival de ceci, festival de ça. C'est la fête. On veut faire la fête alors qu'on est au bord d'un volcan. Nous sommes comme au temps qui précédait le déluge. Nous sommes comme au temps qui précédait la ruine de Sodome et de Gomorre. Vive le sida! Voilà, aujourd'hui, à quoi nous en sommes. Et on fait des marches pour ceci, pour cela, pour justifier tout ce que la parole de Dieu appelle des abominations. Et nous sommes 2000 ans après la venue du Christ. Car si Pentecôte pour les Juifs, et c'est ce que je soulignais hier soir, si Pentecôte pour les Juifs rappelle le don de la loi, pour les chrétiens, qu'est-ce que ça nous rappelle? La descente du Saint-Esprit. Parce que la loi, mes frères, nous n'allons pas accuser les Israélites de ne pas avoir pu l'accomplir. Hein. Nous n'allons pas les accuser d'avoir fait le veau d'or, car nous sommes la génération du veau d'or dans ces terres dites chrétiennes. Qu'est-ce qu'on adore? Qu'est-ce qu'on vous dit qu'on adore? J'adore ceci, j'adore cela. Vous me direz, oui, ben, vous, on vous entend assez souvent autant souligner ces choses. Vous vieillissez et puis vous sclérosez parce que vous répétez ces choses-là. Et vous n'avez pas honte de entendre tout ce monde qui vous entoure quand il parle, ils adorent. N'importe quoi, on emploie le mot adorer. Hein. Et on est prosterné devant le veau d'or. Quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Le bien, c'est de réussir, quelle que soit la manière. Mes chers amis, ce sera terrible le réveil. Et il vient, les athées même le sentent, les athées le pressentent. Mais nous, nous dormons. Nous sommes des chrétiens sauvés, sauvés. Qui vous le dit que vous l'êtes? Il faut que ce soit du vrai dans votre vie, dans notre vie, et que chaque jour, nous puissions nous remettre en question devant notre grand Dieu, qui est un grand sauveur, c'est vrai. Je veux quitter maintenant le Sinaï pour vous introduire déjà dans une autre sphère, car ce n'était pas la loi que Dieu voulait donner aux hommes. Ce qu'il aurait voulu leur donner, c'est l'immensité de son amour. Un amour qui les remplisse de sa pensée à lui. Et qui ne soit plus dirigé par le « tu dois, tu ne dois pas, tu dois, tu ne dois pas ». Mais qu'il soit tellement rempli d'amour pour ce Dieu qui les avait délivrés du pays d'Égypte, qu'il fasse toute chose de cœur, volontairement pour le Seigneur. Être dans la vérité, frères et sœurs, c'est connaître la pensée de Dieu. Et connaissant la pensée de Dieu, vous vivez selon cette pensée. C'est cela qu'il a voulu nous transmettre. Et à l'heure de son choix, lui qui avait donné sa parole sur des tables de pierre, il a donné sa parole dans le cœur de son fils, son unique, son bien-aimé. C'est ce que nous aurons demain matin, le privilège de rappeler. rappeler, c'est que Dieu n'a pas seulement donné une loi rigide, mais il a voulu, après que la loi ait manifesté ce qu'était l'état de l'homme devant Dieu, car c'est cela que la loi a manifesté. La loi ne pouvait pas vous sauver, la loi ne sauve personne. Vous ne pouvez pas être sauvé par des œuvres de loi, vous le savez. Ce n'est pas par des œuvres que vous êtes sauvé. Si vous vous placez devant la loi, qu'est-ce que vous apprenez? Que vous êtes pécheur. Que vous êtes un grand pécheur, non seulement un pécheur, mais la loi révèle que le péché est dans mon cœur. Elle révèle ma nature mauvaise, que j'ai des tendances absolument contraires aux pensées de Dieu, aux voies de Dieu, qui sont pourtant merveilleuses, qui sont insondables, mais qui sont toujours justes. Et voilà que, tout à coup, quand je suis arrêté par la loi, eh bien je découvre que j'ai un cœur incurable, désespérément malheur, que je suis prêt à toutes les convoitises, et où est-ce que je les trouve, ces convoitises? Dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et c'est quelque chose. L'amour du Père n'est pas en lui. Qu'est-ce que c'est que l'amour du Père? C'est quelqu'un, c'est une personne. C'est le Christ. L'amour du Père, ce n'est pas un sentiment qu'on a pour Dieu, c'est ce qui est l'amour du Père, qui est le bien-aimé du Père, c'est Jésus. Alors l'amour du Père, c'est une personne. Jamais vous ne serez sauvé par des doctrines, même les plus orthodoxes, même les plus exactes. Aucune de vos doctrines, dans n'importe quel milieu, évangélique ou catholique, peu importe, aucun homme, aucune doctrine ne sauvera quelqu'un. Et si vous n'avez que les hommes, si vous n'avez pas dit votre oui personnel au Seigneur, aujourd'hui, eh bien mes amis, vous ne pouvez pas le confesser. Quand vous aurez le couteau des musulmans sur la gorge, et qu'ils vous diront, confesse Allah, relie Jésus-Christ et que la vie sauve. Mais si tu ne le fais pas, on te coupe la gorge. Et c'est ça qui vient. L'islam monte, le christianisme est en baisse partout. Malgré les réunions multiples et organisations, ne vous y trompez pas. Qu'est-ce qui monte? Quelle est la religion montante dans tous les pays? C'est l'islam. C'est le faux prophète. Il y a toute une préparation. Et vous savez qu'ils disent déjà, le samedi, nous tuerons les Juifs, et le dimanche, nous tuerons les Chrétiens. Et vous savez, ils viennent de plus en plus dans tous les pays. Ce qu'on construit, on dirait, mais au Québec, nous, on construit des églises, on construit des maisons, ici, au Cameroun, c'est magnifique. Mais, en France, par exemple, on construit des mosquées, de plus en plus, de plus en plus. Et il faudrait des hommes qui soient vraiment inspirés de Dieu et pour leur apporter un témoignage. Mais les musulmans ont plus un témoignage vis-à-vis de Dieu que nous les chrétiens. Eux, ils osent se mettre à genoux encore. Bien sûr, on irait du côté de la nuit. Ce n'est qu'un signe extérieur. Mais ils le font deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois par jour. Ils vont en plein dans leurs travaux. Ils n'ont pas peur de se compromettre, de montrer ce qu'ils croient à eux. Mais nous, confesser le nom de Jésus, le seul nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous fallait être sauvés, nous avons de la paix. Il nous reste dans la gorge. Mais ce n'est pas simplement des paroles, c'est avoir une vie qui ressemble à la vie de Jésus. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Quand le peuple était au pied du Sinaï, il a dit, eh bien, je veux vivre avec eux. Et je veux vivre comme eux. C'était un de nos points de hier. Dieu avec les hommes. Vous campez, je campe avec vous. Alors, on a construit le
tabernacle. Et nous avons parlé de tous ces ouvriers qualifiés qui ont formé des équipes pour construire le tabernacle, la demeure de Dieu, transportable dans le désert, étape par étape. Dieu avec les hommes. Mais il a voulu faire plus pour nous. Il a voulu habiter dans l'homme. Et alors, il est venu en Jésus. Il a tabernaclé l'île Maudrée. Il a vraiment vécu. Il a été en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On n'allait plus chercher dans une demeure, que ce soit tabernacle au désert ou que ce soit la maison de Dieu à Jérusalem. On pouvait le rencontrer dans les rues. C'est lui qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais où était Jésus? Qui est-ce qui se trouvait? Son Père. De qui parlait Jésus? De son Père. Que nous révélait-il? Le visage de son Père. Toutes les perfections invisibles de Dieu, elles étaient rendues visibles sur la face du Christ. Voulez-vous connaître Dieu? Apprenez à connaître Jésus-Christ. Apprenez à le contempler. Et c'est un des sujets que nous traiterons dans le temps Mahanaïm familial. Comment contempler Jésus et en contemplant Jésus, voir le Père. Car Jésus l'a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. La nature me montre la puissance du Dieu, de Dieu, sa sagesse, sa divinité. Mais c'est dans la connaissance intime de la personne de Jésus que j'apprends à connaître le Père. Ma doctrine, disait Jésus, n'est pas la mienne. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu de mon Père. Ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire par mon Père. C'est quelque chose de merveilleux. Il ne disait rien, comme je le dis souvent, que son Père n'avait dit. Il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. C'était l'homme parfaitement dépendant. Puis, qu'est-ce qu'il a voulu être? Nous montrer non seulement Dieu avec nous, mais il voulait que Dieu soit pour nous. Et dans son amour, ses péchés, cette loi que nous avions transgressée, que nous étions incapables d'accomplir, lui l'a rendue grande et honorable. Sa joie, c'était d'accomplir la loi. Il y a eu une heure dans l'histoire de l'humanité où on a vu un homme qui avait la pleine bénédiction de Dieu. Et cet homme, c'était Dieu lui-même marchant sur la terre. Il a été vu marchant et parlant sur la terre. Ses paroles étaient les paroles de Dieu. Ses actes étaient les actes de Dieu. Et au lieu, après nous avoir donné ce modèle à la place des tables rigides de la loi, eh bien, au lieu de remonter dans le ciel en disant « Maintenant, je leur ai donné un modèle vivant, ce n'est plus l'étape de la loi, et ils peuvent se souvenir de moi, qui ai vécu dans un corps de chair, qui suis né comme dans la pauvreté, comme plusieurs naissent dans la pauvreté, et qui a été élevé par des parents, Joseph et Marie, et qui a grandi, qui a eu un métier, et qui jusqu'à 30 ans a exercé ce métier que vous exercez la plupart. Hein. C'est ça qui est quand même merveilleux. Il devrait y avoir, et il y a certainement un lien très précis entre vous et le Seigneur. Peut-être qu'il n'employait pas les mêmes instruments, mais enfin, il a travaillé le bois. Il a livré des commandes à des clients. Il a su que c'était jusqu'à 30 ans. Le Seigneur a œuvré ainsi. C'est quelque chose de bouleversant. On l'appelait le charpentier. Le fils du charpentier. Mais pas seulement le fils du charpentier, mais aussi le charpentier. Le charpentier, on voulait vous sentir à l'aise avec Jésus. On est à l'aise avec Jésus. Et on se sent aimé de Jésus. Il ne nous demande pas quels sont vos titres. Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme titre? Quelles sont vos références? Parlez de son Père. Oh mes amis, mes bien-aimés, que vous deveniez un peu semblable à lui et que vous désiriez le connaître toujours plus. Eh bien, cette vie parfaite, il a dit bien maintenant, je la donne. Je la donne. je prends votre vie imparfaite, votre vie de péché, votre vie de transgression, votre vie qui vous écœure, votre vie qui vous dégoûte, votre vie dont vous voulez finir, parce que vous avez peut-être même pensé au suicide, j'en ai assez. Eh bien, cette vie-là, Jésus dit, moi je la prends. Et je meurs. Tu voudrais mourir? Ben meurs en moi. Je te prends aussi. Pas seulement tes péchés, mais je te prends moi. Et quand je mourrai, toi aussi tu mourras. Et nous sommes, c'est ça la foi, c'est croire que nous sommes morts avec Christ. Qu'aux yeux de Dieu, vous allez cesser d'exister comme pécheur. On me dit, oh, bon alors, hein, moi je vois bien que je suis encore un pécheur. Mais oui, mais moi aussi je le vois bien. Mais je ne regarde pas ce que je vois en moi, je regarde ce que je vois en Christ. Je n'écoute pas les pensées qui montent dans mon cœur, parce que je les connais trop, ces pensées-là. Et alors je serai complètement déprimé. Mais j'écoute sa parole d'un Dieu qui ne peut mentir. Et je sais qu'il ne ment pas, parce qu'il dit je suis perdu, que je n'arriverai pas. Voilà ce qu'il me dit. Il ne cesse de vous dire que vous n'arriverez pas, si vous, vous voulez arriver. Donc vous êtes contre Dieu. Donc vous déclarez Dieu injuste. Ce qui vous rend juste, c'est de donner raison à Dieu. Dites votre oui à Dieu, c'est vrai, je suis ce que je suis. Je l'accepte. Mais alors, il nous dit, mais je veux pas que tu restes là. Je te donne mon fils pour que tu deviennes semblable à lui. Oh, mais c'est trop beau, c'est incroyable, ça. C'est ça. Eh bien, le jour où vous acceptez cela, et c'est tous les jours que nous acceptons cela, réalisez que je suis mort avec Christ pour vivre de la vie de Jésus. Dieu ne vous voit plus qu'au travers des perfections de son Fils. Et c'est sa parole que vous devez croire, ce n'est pas les sentiments de votre cœur. Parce que si vous en êtes encore sur vos sentiments, vous ferez de la déprime. Croyez à sa parole. Ne dites pas simplement, mais moi j'ai la foi, je l'ai eu il y a X années. Est-ce que tu l'as aujourd'hui? Et là, pour aujourd'hui, c'est pas de dire ce que tu vois en toi, c'est de dire ce que tu vois en lui. Je crois. Et alors, ce Christ qui est mort, il est ressuscité pour vous. C'est ce que je disais, non pas seulement Dieu avec nous, mais maintenant Dieu pour nous. Et il nous l'a prouvé qu'il était pour nous en nous donnant son Fils. Son Fils nous a prouvé son amour, et maintenant, c'est Dieu pour nous. Si Dieu est pour vous, connaissez la foi. Qui sera contre vous? C'est Dieu qui justifie. Qu'est-ce qui pourrait vous condamner? Vos sentiments? Non. C'est Dieu qui justifie. Qui est-ce qui vous condamnera? Il y en a un qui pourrait nous jeter la pierre. C'est qui? C'est le Christ. Hein? Puisqu'il était sans péché. Mais c'est justement lui qui est mort. Il est mort pour vous, alors il ne veut pas vous condamner. C'est lui qui est mort et vous êtes dans sa mort. Vous êtes dans sa mort. Vous avez disparu de l'horizon de Dieu en tant que pécheur. Il vous voit dans la personne de Christ. Alors continuez de vous réfugier dans l'amour du Seigneur. S'il vous a donné le plus, comment ne vous donnera-t-il pas le moins? C'est lui des Romains. Il a donné sa vie pour nous. Comment ne recevrions-nous pas aussi quelques petites choses? Toutes choses, mais toutes ces choses après lesquelles vous soupirez, vous les avez en lui. Comment ne recevrions-nous pas toutes choses avec lui? Alors, croyez ça, c'est ça, croire. Avoir la foi, c'est pas croire qu'un jour on s'est converti, ou se souvenir qu'on s'est converti, mais c'est croire aujourd'hui, seulement aujourd'hui, on a eu tout un camp sur ce mot aujourd'hui, c'est le mot de Dieu, c'est le mot du Saint-Esprit, et bien aujourd'hui, croyez. Et non seulement vous avez Christ pour vous, mais comme nous allons le voir demain soir, nous avons Christ en nous, parce que la Pentecôte s'est accomplie. Et Jésus, remontant au ciel, après avoir subi la mort pour nous, mais étant ressuscité, il nous a déjà pris avec lui donne son attention, de sorte que si vous lisez vraiment un peu votre Bible, vous voyez que dans les Éphésiens, vous vous trouvez assis en lui ou dans les lieux célestes, pas au fond de votre cœur. Assis en lui dans les lieux célestes, en Christ. Voilà où vous êtes. Et vous pouvez regarder les choses du ciel. Vous pouvez les regarder les choses de la terre d'en haut. Vous êtes déjà là. Et le jour de la Pentecôte, il a envoyé son esprit dans ses cœurs. Et nous le disions, hein, ce qui s'est passé le jour de l'ascension, les disciples ont vu Jésus partir, et Jésus était devenu quoi depuis le Golgotha, où ils avaient fait tous faillite, où ils avaient tous manifesté qu'ils étaient des transgresseurs, Jésus était devenu le trésor de leur cœur. Il l'avait revu vivant, sauf Judas, qui est mort dans son péché, dans son orgueil, au lieu d'attendre comme Pierre, qui a été restauré. Eh bien, quelles que soient vos fautes passées, souvenez-vous de Pierre restauré qui reçoit le ministère d'apporter l'évangile aux nations, la grande commission. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, dans peu de jours. Et ils ont attendu ces peu de jours. Et comme le jour de Pentecôte s'accomplissait, c'est demain. Nous nous souvenons de cela. Eh bien, ils étaient assis dans un certain lieu, tranquille. Il n'y avait pas d'excitation. Puis tout d'un coup, l'Esprit est descendu sur les meilleurs, sur chacun d'eux. Chacun a reçu ses capacités de devenir un témoin. On n'a pas tous le même témoignage, on n'a pas tous le même ministère, mais chacun pouvait exprimer quelque chose qui donnait la gloire. Vos vies, quelles qu'elles soient, comme chaque fleur a sa couleur et dégage son parfum, chaque vie est porteuse d'un mystère. Tu voudrais être un glaïeul? Puis tu n'es qu'une violette? Tu sais, c'est une violette. C'est beaucoup de glaïeul. Alors, croyons cela, acceptons ce que nous sommes, puis laissons le Seigneur faire. Demain, nous allons nous arrêter spécialement sur ce que Christ a fait pour nous. Nous, des gens qui avions transgressé la loi, il est mort pour nos péchés et pour nos péchés pour nous. On en est fini à cette situation-là. Ce qui ne veut pas dire que nous ne péchons pas encore. Nous avons le péché en nous, mais justement la loi nous a démontré que le péché est en nous. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Si je n'avais que la loi, alors c'est toujours des